Chapitre 10. Devant la porte des chambres réservées aux condamnés politiques, le gardien qui avait accompagné Nekhludov le quitta, en lui promettant de venir le chercher au moment du couvre-feu. À peine s'était-il éloigné que Nekhludov vit accourir vers lui, aussi vite que le lui permettait la chaîne qu'il traînait au pied, un forçat qui, se penchant à son oreille, lui dit d'un air mystérieux « Il faut que vous interveniez, Barine. Ils ont tout à fait entortillé le petit. Ils l'ont saoulé. Aujourd'hui déjà, à l'appel, il s'est présenté sous le nom de Karmanov. Vous seul pouvez intervenir. Nous, si nous essayons, il nous tuerait. » Et après avoir rapidement murmuré ces paroles en lançant autour de lui des regards effrayés, le forçat s'enfuit, se perdit dans la foule qui remplissait le corridor. L'affaire dont il parlait consistait en ceci. Un forçat nommé Karmanov avait décidé un jeune déporté, qui lui ressemblait de visage, à changer de nom avec lui, de telle sorte que c'était le forçat qui allait subir la déportation, et seulement pendant 2 ans, tandis que le jeune garçon le remplacerait au bagne sa vie durant. Déjà la semaine précédente, le même prisonnier avait prévenu Nekhludov des préparatifs de cette substitution, en lui demandant d'intervenir s'il le pouvait pour empêcher un crime aussi monstrueux. Ce prisonnier était d'ailleurs, pour Nekhludov, qu'il avait remarqué depuis le départ de Tomsk, une des figures les plus curieuses du convoi. C'était un paysan d'une 30aine d'années, grand et robuste, avec un nez épaté et de petits yeux. Il était condamné aux travaux forcés pour tentative de vol et d'assassinat. Il s'appelait Makar Dievkin. Il avait raconté à Nekhludov que le crime pour lequel il était condamné était bien réel, mais n'avait pas été accompli par lui, Makar. Le crime avait été accompli par quelqu'un qu'il ne désignait que du nom de lui, mais qui était évidemment le diable en personne. Un jour, certains étrangers étaient venus chez le père de Makar et avaient loué, moyennant 2 roubles, un traîneau pour se rendre à un village situé à 40 verstes de là. Le père avait chargé son fils de conduire le traîneau, et Makar avait attelé son cheval. Il s'était habillé et s'était mis en route. On s'était arrêté dans une auberge à mi-chemin pour boire du thé. L'étranger avait appris à Makar qu'il allait se marier avec une jeune fille du village où il se rendait et qu'il portait sur lui, dans un portefeuille, 500 roubles, toute sa fortune. Dès qu'il avait appris cela, Makar était sorti dans la cour de l'auberge, avait pris une hache et l'avait cachée sous la paille au fond du traîneau. « Aussi vrai que je crois en Dieu, Barine, racontait-il, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette hache. » C'est lui qui m'a dit « Prends la hache », et moi je l'ai prise. On remonte en traîneau, on repart, rien de mauvais. À la hache, je n'y pensais plus. Nous approchons du village, encore 6 verstes. Il y a une côte à monter à travers un bois. Je descends pour ne pas fatiguer le cheval, et voilà que, lui, il me murmure de nouveau à l'oreille « Eh bien, à quoi penses-tu ? » Au haut de la côte, une fois sorti du bois, il y aura du monde. C'est le village qui commence, et il emportera son argent. Allons, pas de temps à perdre, c'est le moment. Je me penche vers le traîneau, comme pour arranger la paille, et la hache me saute d'elle-même dans la main. Et voilà que l'homme se retourne. « Qu'est-ce que tu fais ? » qu'il me dit. Alors je lève la hache, mais l'homme, un gaillard solide, s'élance à terre et me saisit la main. « Misérable !» qu'il me dit. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et il me jette dans la neige. Et moi, je ne résiste pas, je me laisse faire. Il me lie les mains avec son mouchoir, me met dans le traîneau, me conduit tout droit chez le starost. On me fourre en prison, on me juge. Tout le village me donne un certificat, comme quoi je suis un honnête homme, et qu'on n'a jamais rien eu à me reprocher. Le patron chez qui je servais me donne lui aussi un bon témoignage. Mais je n'avais pas les moyens de m'offrir un avocat, j'en ai eu pour 4 ans de travaux forcés. Et voici que ce même homme, pour sauver un de ses compagnons, venait à 2 reprises de révéler à Nekhludov un secret qui lui pesait sur la conscience, s'exposant ainsi à perdre la vie, car il savait que les prisonniers, s'ils découvraient son indiscrétion, l'étrangleraient infailliblement. Chapitre 11. Les condamnés politiques occupaient 2 petites salles précédées d'une antichambre qui donnait sur le corridor. Dans cette antichambre, Nekhludov trouva Simonson, qui, accroupi près du poêle avec une bûche de sapin dans la main, paraissait très préoccupé d'allumer le feu. En apercevant Nekhludov, il déposa un instant sa bûche pour lui tendre la main, sans se relever de sa position accroupie. « Je suis heureux de ce que vous soyez venu. J'ai précisément besoin de causer avec vous, » dit-il avec sa mine sérieuse, regardant Nekhludov droit dans les yeux. « Qu'y a-t-il donc ? » demanda Nekhludov. « Je vous le dirai plus tard. En ce moment, je suis occupé. » Et Simonson, reprenant sa bûche, se remit à surveiller le feu qu'il s'était chargé d'allumer d'après une méthode rationnelle de son invention. Nekhludov allait entrer dans la première des deux chambres lorsqu'il vit sortir de l'autre chambre la Maslova, portant dans un torchon un énorme paquet d'ordures et de poussière qu'elle se préparait à jeter dans le poêle. Elle avait sa veste blanche et des sabots aux pieds. Sa tête était couverte d'un fichu blanc qui lui cachait la moitié du visage. Et, pour balayer plus à l'aise, elle s'était retroussée en relevant très haut les bords de sa jupe. Quand elle vit Nekhludov, elle rougit. Puis, aussitôt, elle mit à terre son paquet, s'essuya les mains en les frottant à sa jupe, et s'avança vers Nekhludov d'un air très animé. « Vous faites le ménage ?» lui dit Nekhludov en lui serrant la main. « Oui, j'ai repris mon ancien métier, » répondit-elle avec un sourire. « Et ce qu'il y a de saleté ici, vous ne pouvez pas vous en faire une idée. Voilà plus d'une heure que nous balayons. » Elle se tourna vers Simonson. « Eh bien, et le plaid, est-il sec ?»« Presque sec, » répondit Simonson, en jetant sur la Maslova un regard qui frappa Nekhludov. « Je viendrai le chercher dans un instant, et je vous apporterai encore d'autres choses à sécher, » lui dit la Maslova. Puis, s'adressant à Nekhludov, « Tout le monde est réuni là, » dit-elle, en lui désignant la première chambre. Nekhludov ouvrit la porte de cette chambre et entra. C'était une petite pièce oblongue, éclairée par une lampe de métal. Il y faisait plutôt froid, au contraire des autres salles. Mais on y respirait une insupportable odeur de poussière, de tabac et d'humidité. La lampe éclairait vivement le milieu de la pièce, laissant dans l'ombre les couchettes disposées le long des murs. Et c'est à peine si l'on distinguait les figures des condamnés assis sur ces couchettes. Dans cette chambre se trouvaient réunis tous les condamnés politiques du convoi, à l'exception de Simonson et de deux autres hommes qui avaient la charge de l'approvisionnement et qui étaient allés chercher le souper. Il y avait là Vera Efremovna Bogodorchovska, encore plus maigre et plus jaune qu'elle n'était dans la prison, avec ses énormes yeux effrayés et sa veine gonflée sur le front. Vêtue d'une veste grise, elle était assise devant un journal déplié et s'occupait à entonner du tabac dans des tubes de papier à cigarette. Il y avait là une autre condamnée politique que Nekhludov connaissait et qu'il aimait beaucoup, Émilie Rantsev. Préposée aux soins domestiques de la chambrée, elle excellait à revêtir celle-ci d'un charme tout particulier de douceur et d'intimité, même dans les conditions les plus difficiles. Assise sous la lampe, les manches relevées, elle travaillait de ses belles mains fines et légères à laver et à essuyer les tasses et les soucoupes. Jeune encore, mais sans être jolie, son visage intelligent et bon avait le privilège de se transfigurer complètement quand elle souriait, et de prendre alors une expression joyeuse, vaillante, vraiment belle. C'est avec un de ses aimables sourires qu'elle accueillit Nekhludov. « Nous vous croyons repartis pour la Russie, » lui dit-elle. Dans un coin, Nekhludov entrevit Marie Pavlovna, tenant sur ses genoux une fillette blonde qui ne cessait point de marmotter quelque chose de sa douce voix d'enfant. « Comme c'est bien que vous soyez venu. Avez-vous vu Katia ?» demanda la jeune fille à Nekhludov. « Voici que notre petite famille s'est accrue d'un membre nouveau, » ajouta-t-elle en montrant la fillette. Anatole Kryltsov était là aussi. Maigre et pâle, il se tenait assis sur sa couchette, les jambes repliées sous lui, les mains enfoncées dans les manches de sa pelisse. De ses grands yeux creusés de phtisique, il regardait Nekhludov. Celui-ci allait s'approcher de lui lorsque, sur son chemin, il rencontra un jeune homme roux et crépu qui, tout en fouillant dans son sac, causait avec une jolie jeune femme qui lui souriait de toutes ses dents. Nekhludov s'empressa d'aller d'abord serrer la main de ce jeune homme. Non point qu'il eût pour lui une affection spéciale, mais au contraire, parce que c'était le seul des condamnés politiques du convoi qui lui fut profondément et invinciblement antipathique. Et il considérait la nécessité de le saluer comme un devoir pénible, dont il avait toujours hâte de se délivrer. Le jeune homme, Novodvorov, leva sur lui ses petits yeux, qui brillaient sous les verres de son lorgnon, et lui tendit sa main étroite et longue. « Eh bien, êtes-vous toujours content de votre voyage ? » demanda-t-il avec une nuance visible d'ironie. « Mais oui, cela m'intéresse beaucoup, » répondit Nekhludov, affectant de n'avoir pas senti l'intention blessante que révélait la question de Novodvorov. Et il s'empressa de rejoindre Kryltsov. Il affectait une mine indifférente, mais la vérité est que les paroles de Novodvorov et son évident désir de lui être désagréable avaient brusquement détruit la disposition optimiste où il s'était senti depuis plusieurs jours. Il éprouvait maintenant une impression de gêne mêlée de tristesse, et peu s'en fallait qu'il ne regrettât d'être venu. « Et la santé ? » demanda-t-il à Kryltsov en serrant sa main glacée et tremblante de fièvre. « Merci, je vais assez bien, mais je suis tout mouillé, et pas moyen de me réchauffer, » dit Kryltsov, s'empressant de cacher sa main dans la manche de sa pelisse. « Sans compter que dans cette chambre, il fait un froid de chien. Deux carreaux sont cassés. On aurait bien dû prendre la peine de les remplacer. » Et il désignait du doigt à Nekhludov deux vitres qui manquaient dans la fenêtre grillée. « Et vous, reprit-il, pourquoi n'êtes-vous pas venu tous ces jours passés ?»« On ne m'a pas laissé entrer. C'est aujourd'hui seulement que le nouvel officier s'est montré plus traitable. »« Traitable ? Ah bien oui, vous pouvez en parler. » « Demandez donc à Macha ce qu'il a fait ce matin. » Marie Pavlovna, sans se lever de sa place, à l'autre extrémité de la salle, raconta à Nekhludov la scène qui avait eu lieu au sujet de la petite fille. « Je suis d'avis que nous avons le devoir de signer une protestation collective, » s'écria de sa voix tranchante Vera Efremovna, en promenant de l'un à l'autre de ses compagnons son regard effrayé. « Déjà Vladimir Simonson a dit son fait à cette brute, mais j'estime que cela ne suffit pas. » « À quoi bon protester ?» dit Kryltsov, avec une grimace ennuyée. On sentait que depuis longtemps déjà, le manque de simplicité de Vera Bogudoshovska l'agaçait et lui causait une véritable souffrance nerveuse. « Vous cherchez Katia ? » poursuivit-il en se retournant vers Nekhludov. « Elle est toujours à travailler. Elle a déjà fini de nettoyer nos effets. Elle brosse maintenant les manteaux des femmes. Il n'y a que les puces dont elle n'arrivera jamais à nous débarrasser. » « Les sales bêtes nous mangent, que c'est une pitié. »« Et Macha, que fait-elle là-bas dans son coin ? » demanda-t-il en essayant de se redresser pour regarder du côté de Marie Pavlovna. « Elle est en train de peigner sa fille, » dit Émilie Rantsiev. « Pourvu au moins qu'elle ne répartisse pas entre nous les poux qu'elle lui aura enlevés, » reprit Kryltsov. « Non, non, n'ayez pas peur. Je fais les choses consciencieusement. D'ailleurs, la voici tout à fait propre, » dit Marie Pavlovna. « Tenez, Émilie, prenez-la près de vous, moi je vais aller maintenant aider Katia. » La Rantseva prit l'enfant, l'attira sur ses genoux avec une sollicitude maternelle et lui donna un morceau de sucre. Marie Pavlovna sortit, et au même instant, les deux condamnés qui étaient allés chercher le souper rentrèrent dans la salle. Chapitre 12. Un des deux condamnés qui venait d'entrer était un homme encore jeune, petit et sec, avec une pelisse courte et de hautes bottes. Il marchait d'un pas léger et rapide, portant à chaque main une grande théière pleine d'eau bouillante, et tenant sous chaque bras un pain enroulé dans une serviette. « Ah, et voici que notre prince lui-même a reparu, » dit-il en posant les théières près des tasses soigneusement préparées par la Rantseva. « Nous avons acheté des choses extraordinaires, » poursuivit-il, après avoir ôté sa pelisse, et l'avoir lancé par-dessus les têtes dans le coin de la pièce où était son lit. Markel vous rapporte du lait et des œufs. Un vrai régal, quoi. Et Émilie va nous servir tout cela en l'embellissant encore de son esthétique propreté, ajouta-t-il avec un sourire à l'adresse de la Rantseva. Toute l'apparence extérieure de cet homme, ses mouvements, le son de sa voix, ses regards, tout chez lui exprimait un mélange de courage et de gaieté. Et au contraire, son compagnon avait un aspect sombre et triste. C'était lui aussi un homme de petite taille, mais osseux, avec un visage gris aux mâchoires saillantes. Il était vêtu d'un vieux manteau ouaté et portait des galoches par-dessus ses bottes. Quand il se fut débarrassé du panier et du pot qu'il tenait en main, il salua froidement Nekhludov d'un signe de tête, en fixant sur lui ses larges yeux verts. Tous deux, ces condamnés politiques, étaient sortis du peuple. Le premier, Nabatov, était un paysan. Le second, Markel, un ouvrier de fabrique. Mais tandis que Markel n'était devenu révolutionnaire qu'à 35 ans, Nabatov l'était presque depuis son enfance. À l'école de son village, il avait montré de telles dispositions qu'on l'avait envoyé au collège. Et là encore, il avait toujours occupé les premières places. Il en était sorti avec une médaille d'or. Mais au lieu d'entrer ensuite à l'université, il avait résolu de revenir dans le peuple, estimant que son devoir était de partager avec ses frères ce qu'il avait appris. Il s'était fait nommer greffier dans un grand village, avait prêté aux paysans ou leur avait lu toutes sortes de livres, avait organisé chez eux une société de secours mutuel et n'avait point tardé à être arrêté. On l'avait relâché après 8 mois de prison, mais dès lors la police avait eu l'œil sur lui. Lui, cependant, à peine remis en liberté, était allé dans un autre gouvernement, s'était fait nommer maître d'école dans un village et avait recommencé son apostolat. Arrêté de nouveau, condamné à 2 ans de prison, il n'avait fait que se fortifier dans ses convictions. Au sortir de son second emprisonnement, il avait été déporté dans le gouvernement de Perm. Il y était resté 7 mois, au bout desquels, pour avoir refusé de prêter serment au nouvel empereur, il avait été mis en prison de nouveau et condamné à la déportation dans le gouvernement de Yakoutsk, au fond de la Sibérie. Ainsi, il avait passé la moitié de sa vie dans les prisons ou l'exil. Mais toutes ces épreuves, loin de l'aigrir, lui avaient donné sans cesse plus d'entrain et plus d'énergie. C'était un homme d'une résistance extrême, plein de santé physique et morale. En quelque lieu qu'il se trouva, toujours il était également actif, vaillant et gai. Jamais il ne regrettait le passé, jamais il ne cherchait à prévoir l'avenir. Toutes les forces de son intelligence, de son habileté, de son sens pratique, il les appliquait au moment présent. Quand il était en liberté, il s'employait à poursuivre l'objet qu'il s'était proposé, c'est-à-dire l'instruction des paysans. Quand sa liberté lui était enlevée, il s'employait tout entier à améliorer, dans la mesure du possible, les conditions de la vie, aussi bien pour lui que pour son entourage. Vivre pour autrui était d'ailleurs chez lui une nécessité naturelle. N'ayant pour son propre compte aucun besoin, pouvant parfaitement se passer de manger comme de dormir, c'était au profit des autres qu'il dépensait, d'instinct, son activité de robuste paysan. Et en toute chose, il était resté un vrai paysan, aisé, adroit de ses mains, infatigable, honnête sans effort, attentif aux sentiments et aux pensées de chacun. Sa vieille mère, paysanne illettrée et superstitieuse, vivait encore, et Nabatov, toutes les fois qu'il était remis en liberté, allait la voir. Il l'aidait dans tous les soins domestiques, il allait au cabaret avec ses anciens condisciples de l'école du village, il les accompagnait aux champs, il fumait avec eux des cigarettes. Il se battait à coups de poing avec eux, sauf à leur expliquer, entre deux parties, comment ils étaient dupes de leur ignorance et de leur faiblesse. Tout en rêvant de toute son âme une révolution au profit du peuple, il n'admettait point que cette révolution transformât le peuple en autre chose que ce qu'il était, ni même qu'elle modifiât beaucoup les conditions de sa vie. Il espérait simplement que la révolution rendrait les paysans maîtres du sol, qu'elle les débarrasserait des propriétaires et des fonctionnaires. La révolution, suivant lui, et en cela il différait absolument d'avis avec Novodvorov, la révolution ne devait point rompre complètement avec le passé, renouveler de fond en comble les mœurs et les habitudes, mais seulement mieux répartir le vénérable et précieux trésor des traditions nationales. Paysan, il l'était jusque dans son attitude à l'égard de la religion. Jamais il ne s'inquiétait des problèmes métaphysiques, des principes premiers, de la vie future. Il répétait volontiers que Dieu était pour lui, comme pour Laplace, une hypothèse dont il ne voyait pas la nécessité. Peu lui importait de savoir de quelle façon l'univers avait commencé. Et le darwinisme, que la plupart de ses compagnons prenaient fort au sérieux, n'était à ses yeux qu'une fantaisie aussi gratuite que la création du monde en 6 jours. Quant à la vie future, jamais non plus il n'y pensait. mais au fond de son cœur, il portait une croyance qu'il avait héritée de ses parents, une croyance commune à tous les hommes qui vivent en contact avec la terre. Il croyait que de même que dans le monde animal et végétal, rien ne périt et tout se transforme, de même l'homme ne périt point, il ne fait que changer de vie. Il croyait cela, et de là venait qu'il regardait toujours la mort sans crainte ni colère. Mais il n'aimait pas à réfléchir sur cette croyance, et moins encore à en parler. Il n'aimait qu'à travailler, et toujours il s'occupait de questions pratiques, et s'efforçait d'amener ses compagnons à faire comme lui. D'une toute autre espèce était son compagnon, l'ouvrier Markel. Celui-là était entré dans une usine dès l'âge de 15 ans. Et dès l'âge de 15 ans, il avait commencé à fumer et à boire pour étouffer le sentiment d'humiliation qui était en lui. Ce sentiment était né en lui certains soirs de Noël, où la femme du maître de l'usine l'avait invité à une fête offerte aux enfants de ses ouvriers. Markel et ses camarades avaient eu en cadeau qui un sifflet, qui une pomme, qui une noix dorée, tandis qu'on avait donné aux enfants du maître de l'usine des jouets merveilleux qui devaient coûter au moins 50 roubles chacun. Markel avait cependant continué pendant 20 ans à mener la vie ordinaire de l'ouvrier. Il avait 35 ans lorsqu'il avait fait connaissance avec une étudiante révolutionnaire qui s'était engagée comme ouvrière pour se livrer à la propagande. Cette jeune femme lui avait prêté des brochures et des livres, s'était mise à discuter avec lui, lui avait ouvert les yeux sur sa position, et sur les causes de cette position, et sur les moyens de l'améliorer. Quand Markel avait vu la possibilité de s'affranchir lui-même et d'affranchir les autres de la cruelle oppression dont il souffrait depuis l'enfance, l'injustice de cette oppression lui était apparue encore plus vivement, et à son désir d'affranchissement s'était joint un profond désir de vengeance contre ceux qu'il avait injustement opprimés. La possibilité de l'affranchissement pour lui-même et les autres, on lui avait assuré qu'elle viendrait de la science, et Markel s'était passionnément évertué à acquérir la science. La science ne lui avait-elle pas déjà révélé l'injustice de la position où il se trouvait? Elle seule, évidemment, lui permettrait maintenant de faire cesser cette injustice. Et la science, en outre, avait à ses yeux pour avantage de l'élever au-dessus des autres hommes, ce qui avait été toujours sa secrète ambition. Aussi avait-il cessé de fumer et de boire pour consacrer à l'étude tous ses instants de loisir. La révolutionnaire continuait à correspondre avec lui et admirait de plus en plus l'étonnante ardeur avec laquelle il se repaissait des connaissances les plus diverses. Et le fait est qu'en 2 ans, Markel avait appris la géométrie, l'algèbre, l'histoire, avait lu toutes sortes d'ouvrages de critique et de philosophie, mais surtout s'était assimilé toute la littérature socialiste contemporaine. Là-dessus, la révolutionnaire avait été arrêtée. On avait trouvé chez elle des lettres de Markel, et celui-ci, à son tour, avait été arrêté. Dans le gouvernement de Vologda, où il avait été déporté, il avait fait connaissance avec Novodvorov, avait lu encore une foule de livres, avait appris une foule de choses qu'il avait oubliées au fur et à mesure, et était devenu sans cesse plus ardent dans son socialisme. Autorisé, après quelques mois, à revenir dans son pays, il s'était mis à la tête d'une grève qui avait abouti à l'incendie d'une usine et à l'assassinat du directeur. De nouveau, il avait été arrêté, et il allait maintenant en Sibérie, condamné à la déportation pour le reste de sa vie. En matière de religion, il se montrait aussi radical qu'en matière d'économie politique. S'étant convaincu de la fausseté des croyances où il avait été élevé, et étant parvenu à s'en affranchir, d'abord avec crainte, puis avec enthousiasme, il éprouvait comme un désir de se venger de tous ceux qu'il avait tenus dans l'erreur. Il ne cessait point de parler avec haine des popes et de railler amèrement les dogmes religieux. Il avait des habitudes d'ascète, et comme tous ceux qui ont été entraînés au travail depuis l'enfance, il était adroit de ses mains et infatigable aux exercices physiques. Mais au contraire de Nabatov, il méprisait ses exercices et le travail manuel sous toutes ses formes. À l'étape comme en prison, il cherchait à se créer le plus de loisirs possible, afin de pouvoir continuer à s'instruire, ce qui lui paraissait sans cesse davantage la seule occupation honorable et utile. Il était en train d'étudier en ce moment le premier tome du Capital de Marx. Il cachait le volume au fond de son sac et veillait sur lui comme sur le plus précieux des trésors. Pour ses compagnons, il se montrait indifférent et réservé, sauf pour Novodvorov, à qui il s'était passionnément attaché et dont il tenait toutes les opinions sur tous les sujets comme l'essence même de la vérité. La femme lui apparaissait comme le principal obstacle à l'œuvre d'émancipation sociale et au libre développement de l'intelligence. Aussi éprouvait-il pour les femmes un mépris absolu. Il faisait cependant exception pour la Maslova, en qui il voyait un exemple typique de l'exploitation des classes inférieures par les supérieures. Il lui témoignait en toutes circonstances beaucoup d'égards. Et c'est pour le même motif qu'il ne manquait pas une occasion de faire voir à Nekhludov toute l'antipathie qu'il avait pour lui.